Bonjour. Un jour, un commercial en chaussures fut envoyé dans un pays lointain. Quelques jours plus tard, il envoya ce message à sa maison. C'est peine perdue. Je rentre. Personne ne porte de chaussures par ici. Alors la maison mère envoya un autre vendeur de la même entreprise dans cette même région. Après avoir prospecté, lui aussi envoya un message à la maison mère. Ce message disait ceci. Il y a un marché à prendre. Envoyez-moi d'autres chaussures. Personne ne porte de souliers dans cet endroit. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Vous avez beaucoup entendu parler de vision ces derniers temps. Si vous étiez à la réunion dimanche dernier, ou si vous en avez lu le compte-rendu, vous aurez entendu parler de prédication vision une fois par mois, où l'on rappelle et on développe ce que on veut vivre ensemble dans notre projet de croissance. Ce mois-ci, le 6 mars, Fabrice a prêché. Et une chose dont je me souviens bien, dont il a beaucoup parlé, c'est de l'intention de Dieu. L'intention de Dieu pour le chrétien, pour l'Église, pour la cité. Car Dieu veut, nous a-t-il dit, et cela il citait une épître de Paul à Timothée, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ainsi que Paul le dit, comme je dis, à Timothée. Nous avons donc déjà eu ce mois-ci notre prédication vision, mais ouf, on a annoncé le rythme d'une fois par mois qu'à partir du mois d'avril, donc je peux encore me livrer aujourd'hui à ce petit exercice. Et pour tricher un peu, je ne vais pas l'appeler prédication vision, mais je vais l'appeler prédication regard. Alors revenons à nos deux commerciaux et penchons-nous quelques instants sur leurs regards respectifs d'une même situation. L'un contemple une situation complètement stérile, l'autre un potentiel énorme. L'un se voit face à son pire échec professionnel, l'autre face à l'opportunité qui va doper sa carrière. Lequel est dans le vrai? Autant le premier est peut-être d'un pessimisme rébarbatif, autant le second est d'un optimisme béat. Autant on peut être sûr que le premier ne récoltera rien, non pas parce que le terrain est mauvais finalement, mais parce qu'il n'aura rien tenté, il n'aura rien semé, pas même un peu gratté la terre pour voir en profondeur. Autant il n'est pas du tout certain que le résultat soit à la hauteur des attentes du second, et pour toutes sortes de raisons qu'il n'appréhende à aucun moment. Et donc je vous repose la question, lequel est dans le vrai? Lequel des deux porte le regard le plus juste sur la situation à laquelle il est exposé? Peut-être qu'arrivé là, certains d'entre vous peuvent se dire, mon petit Philippe, on te voit venir avec tes gros sabots. Vous me connaissez assez bien pour savoir que je peux manifester mon enthousiasme et pour savoir vers quelle tendance j'incline. Mais pas du tout, figurez-vous, je suis en train de m'interroger, de vous interroger sur le regard que nous portons sur les choses, parce qu'en définitive, nous voyons bien que tout ce que nous mettons en œuvre dans nos vies est largement motivé par ce regard. Et notre voyage au pays du regard commence dans les Nombres, au chapitre 21. Je résume le contexte. Suite à de nombreux murmures contre Dieu et contre Moïse, comme Israël en avait le secret, et nous aussi, hein, Dieu envoya des serpents venimeux que je vois comme une image du venin des paroles de ces gens. Et ces serpents mordaient les gens et firent de nombreuses victimes, comme il nous est rapporté dans ce chapitre 21 des Nombres. Ils ont pris conscience de leur égarement, à mon avis parce que le venin sortant de la bouche de ces serpents leur a rappelé celui de leurs propos sortant de leur propre bouche. Et ils s'en repentirent auprès de Moïse. Et priant Dieu pour eux, Moïse reçoit cet ordre. Donc nous sommes en Nombre, chapitre 21, versets 8 et 9. « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Voilà ce que nous dit ce passage. Donc si vous étiez mordu, porter son regard sur le serpent suffisait pour sauver sa vie. Étonnant, médicalement parlant, mais c'est ainsi. Et c'est également très symbolique, le serpent exposé sur une perche comme ceci nous annonce le Christ exposé sur la croix. Reconnaître son péché, se repentir et tourner son regard vers Jésus est le seul moyen d'accéder à la vie éternelle. Et vous le voyez, aussi étonnant que cela puisse paraître, sauver sa vie ainsi tenait à un regard. On y croyait ou on n'y croyait pas, mais qu'on le veuille ou non, après avoir été mordu, si on détournait le regard en direction du serpent de bronze, si on ne détournait pas son regard du serpent qui nous avait mordu, mais qu'on le porte sur le serpent de bronze, on vivait. Ça ne coûtait que le millième de calories qu'il fallait pour orienter l'œil dans la bonne direction, et je pense que personne n'a hésité. Poursuivons notre voyage au pays du regard par un grand saut dans le temps, et nous abordons maintenant les évangiles. Et nous y voyons que beaucoup d'actions entreprises par Jésus commencent par un regard. Un regard sur les choses, un regard sur les événements, un regard sur les personnes. Prenons par exemple l'exemple de cette femme affectée d'une perte de sang depuis 12 ans. Je résume l'histoire telle qu'elle est présentée dans trois des évangiles. Jésus est en route pour se rendre au chevet d'une petite fille qui est malade, en train de mourir même. Toute une foule le suit et le presse de très près, de toutes parts. Et une femme atteinte d'une perte de temps intarissable depuis 12 ans s'approche de lui par derrière, ne serait-ce que pour toucher son vêtement, car elle est persuadée que cela peut suffire pour qu'elle soit guérie. Effectivement, c'est ce qui se passe. Mais elle croit pouvoir passer incognito, et je pense qu'il ne faut pas voir là un refus du contact qu'elle pourrait avoir avec Jésus, et encore moins de l'ingratitude, mais plutôt un sentiment d'indignité personnelle, renforcé peut-être, dû à la nature de son mal. Il s'agit d'un mal intime, et elle veut être guérie dans l'intimité, et non exposée au grand jour devant toute la foule. Et c'est un petit peu ce qui ressort de son attitude lorsque, après avoir été trouvée par Jésus, découverte par Jésus, elle se jette à ses pieds, tremblante, effrayée et peut-être même honteuse. Mais Jésus ne voit pas les choses de cette manière. L'évangile de Marc, qui est pourtant le plus concis des trois évangiles, prendra la peine de nous rapporter que Jésus regardait tout autour de lui, qu'il a cherché tout autour de lui et même derrière lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors même que le miracle est déjà accompli, que l'essentiel est fait a priori et que cette femme a déjà été guérie. Mais non, pour Jésus, là n'est pas l'essentiel. Il veut entrer en contact avec elle, avoir un échange personnel au milieu de toute cette foule, au milieu même de toute cette foule, et annoncer à elle personnellement que sa foi l'a sauvée. Jésus a cherché le regard de cette femme. Jésus a cherché à ce que cette femme porte le regard sur lui. Dans un registre tout à fait opposé, dans le sermon sur la montagne, Jésus dévoile aussi le mauvais côté de que peut prendre un regard, de ce qu'il peut contenir de malsain, comme le désir illégitime d'un homme pour une femme qui n'est pas la sienne, le désir de posséder, le désir de prendre pouvoir sur les autres. À la fin de son ministère terrestre, c'est après avoir porté un regard sur Jérusalem, dans laquelle il est en train d'entrer, qu'il va pleurer sur elle. Luc chapitre 19, verset 41. Quand il s'approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. » Ce qui est remarquable ici, c'est que ceci se passe à l'instant précis où Jésus entre à Jérusalem et où ses disciples l'acclament pour lui faire une entrée triomphale. C'est d'ailleurs aujourd'hui même le dimanche des Rameaux qui commémore cet événement. Mais voilà la suite des paroles que Jésus prononce à cet instant. « Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés, etc., etc., etc. Cela est caché à tes yeux. » Et de fait, le regard de compassion que Jésus a porté sur Jérusalem ne croise pas le regard de ses habitants. Ils ne font de lui aucun cas. Et ça, nous le savons bien, puisque ce sera à tel point qu'ils auront préféré Barabbas, qui sera jugé par eux plus digne d'être relâché que Jésus. Quand en groupe de maison, dans notre groupe de maison, nous avons étudié les premières rencontres de Jésus avec ses premiers disciples, j'ai été frappé par une chose. Avant toute parole, sa rencontre avec Pierre, la rencontre de Jésus avec Pierre, commence par un regard. Vous pourrez le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 42. Le texte dit expressément, « Le regardant, Jésus dit. » Je suppose que si l'auteur a choisi cette expression, c'est parce que le regard était profond et direct. Un regard qui s'attarde. Ce n'est pas dit en le voyant, en l'apercevant. Parce que ça, c'est des expressions qu'on trouve aussi par ailleurs. Mais non. Le regardant, Jésus lui dit, et il le dit en d'autres circonstances, mais celle-ci m'a marqué. Et bien entendu, la parole qui suit est à la hauteur de cette connaissance de sa personne, puisque c'est à cet instant qu'il lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. De tous les disciples, Pierre est peut-être celui duquel je me sens le plus ressemblant, par la personnalité, le caractère. Quand Jésus regarde Pierre, je vois le regard que Jésus porte sur moi. Je vois ce regard insistant, profond, immense, intense, qui me considère comme une personne à part entière, qui m'accepte et me reçoit comme je suis, avec toutes mes inconséquences, toutes mes inconsistances. Un peu plus tard, on voit Pierre marcher en pleine nuit, sur les eaux agitées de la mer de Galilée, à la rencontre de Jésus. Il a le regard fixé sur Jésus. Tout se passait bien, jusqu'à ce que son regard se détourne de Jésus pour le porter sur le milieu hostile qui l'entoure. Et là, il commence à couler, aussi bien physiquement que psychologiquement. Là, ça n'allait plus du tout. Et enfin, comment ne pas penser au regard que Jésus adresse à Pierre alors que ce dernier vient de le renier ? Tu vois, je te connais bien mieux que tu ne te connais toi-même. Dans l'avenir, au lieu d'osciller entre tes doutes et tes fausses certitudes, aie foi en moi. Au lieu de te laisser envahir par tes manques et tes excès de confiance en toi, aie confiance en moi. Le regard, c'est le vecteur de la considération que nous avons pour les personnes. Un Marocain de mes connaissances qui habite Brioude, qui, comme vous le savez, est petite ville bourgeoise, où les gens se reconnaissent tous quand ils sont dans la rue, me disait qu'il lui arrivait de croiser des personnes qu'il connaît et auxquelles il a affaire dans la vie courante, mais qui, dans la rue, parce qu'il est étranger, semble tout simplement ne pas le voir. Il me disait vivre cela plus douloureusement qu'un regard de haine, car au moins la haine aurait le mérite de le reconnaître en tant que personne. Alors que là, il dit, je me sens transparent, je me sens inexistant. Mais là n'est pas le regard que Dieu porte sur nous. Quelle réponse donnons-nous à son regard? Et si nous ne regardons pas Dieu, si nous ne regardons pas à Dieu, si nous évitons son regard, est-ce que ça n'en dit pas long sur la considération que nous avons pour lui? En préparant ce message, j'ai été frappé par le nombre de fois où il nous est dit que Jésus prend le temps de regarder avant d'agir ou de prendre la parole. C'est impressionnant. En de nombreuses occasions, nous voyons Jésus parcourir du regard des personnes, une assistance, des foules, et dans bien des cas, l'auteur nous décrit ce que produit en lui ce regard. De la compassion, comme lorsque cette foule qui le suit depuis 3 jours est affamée. De la colère, mêlée d'affliction, face au cœur endurci, comme en cet instant où on instrumentalise un homme à la main desséchée pour le prendre en faute, lui. De l'amour pour ce jeune homme tiraillé entre profiter de sa richesse et suivre Jésus. Et quand les dispositions intérieures de Jésus ne nous sont pas explicitement dévoilées, on les lit comme un livre ouvert. Comme, par exemple, sa patience, quand il enseigne, quand il élabore des paraboles, qu'il explique les Écritures, qu'il élabore des histoires, des paraboles pour rendre plus accessible son enseignement, plus concret. Mais chez Jésus, le regard ne fait pas que susciter des sentiments ou de bonnes dispositions intérieures, suivent les actes. Des guérisons, des miracles, des multiplications de pain, un enseignement adapté et persévérant jour après jour, et j'en passe. La plupart des choix que nous faisons et des actes qui en découlent naissent dans le regard que nous portons sur la vie, sur les événements, sur les gens. Plutôt que de chercher lequel de nos 2 commerciaux est dans le vrai, j'ai envie de savoir quel est le regard juste de la situation. Et si mon regard est juste, il y a de bonnes chances pour que je fasse les bons choix et que les bonnes actions et que les actions qui en découlent aillent dans le bon sens. Je ne sais pas vous, mais moi je donnerais cher, très cher, pour voir les choses avec le regard de Dieu. En fait, de nos 2 commerciaux, aucun n'a le regard exact. Le pessimiste, celui que j'appelle pessimiste, le premier, regarde de trop loin. L'optimiste de trop près. Le pessimiste n'est pas assez dedans pour s'impliquer dans l'affaire. L'optimiste, au contraire, est trop dedans pour raison garder et ne pas se laisser subjuguer. En conduisant la nuit, vous avez sans doute remarqué que les inégalités de la route apparaissent amplifiées par rapport à ce qu'elles sont dans la réalité, en tout cas comme on peut les voir en journée. Et ceci, c'est dû à la lumière des phares, qui est une lumière rasante. Et cette lumière rasante a pour effet d'allonger les ombres des inégalités de la route. Et notre cerveau, qui est habitué à fonctionner de jour, les décodent comme des obstacles de très grande hauteur. Nous le savons, plus un arbre est haut et plus son ombre projette loin. Mais en réalité, l'inégalité de la route n'est pas différente de ce qu'elle est le jour, et elle est tout à fait mineure. Notre premier commercial, donc, en se tenant trop distant par rapport au contexte, a une vue trop rasante. Et du coup, sa perception des difficultés est accentuée. Le second, lui, se place au cœur de l'action. Il voit bien tous les obstacles autour de lui. Il en appréhende leur juste hauteur. Là n'est pas le problème, et il juge qu'ils sont surmontables. Il a sans doute raison. Mais sa position a quand même un gros inconvénient. Les petits obstacles en masquent de beaucoup plus gros derrière. Et cela, il ne s'y attend pas, ne s'y prépare pas. Un exemple, si vous vous tenez au seuil d'une maison qui est là devant vous, c'est une petite maison, elle peut vous cacher la grande barre d'immeubles qui se trouve derrière. Est-ce à dire qu'il nous faut tenir la bonne distance, ni trop loin, ni trop près? Bon, très probablement, dans cette considération, il y aurait une part de sagesse, une bonne part de sagesse stratégique, toute humaine, mais ce n'est pas pour vous dire ça que je vous ai tiré du lit ce matin. Ce dont nous avons besoin, comme personne, comme membre d'Église, comme croyant, c'est de l'éclairage d'en haut. Nous avons besoin de cette lumière qui inonde le ciel et nous permet de voir les choses dans leurs bonnes proportions, avec les bonnes couleurs, dans leur réalité la plus juste. Ce n'est pas un hasard si Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie, c'est la lumière venue d'en haut, qui diffuse à travers tout le ciel et qui éclaire toutes choses sous leur angle exact, sous leur meilleur angle. Ce n'est pas la lumière d'un phare rasante qui amplifie les obstacles. Ce n'est pas la lumière d'un lampadaire qui, au contraire, écrase les obstacles. Ni l'une ni l'autre ne font ressortir la couleur exacte de ce qu'ils éclairent, mais au contraire, à la lumière du jour, à la lumière de la vie, on voit tout cela parfaitement distinctement. Même dans l'ombre, d'ailleurs, cette lumière diffuse partout. Il est pourtant frappant que Jésus, lumière du monde, éprouvait néanmoins le besoin de tourner son regard vers son Père qui est dans le ciel. Nombreux sont les passages où l'on voit Jésus lever les yeux vers le ciel. Et je pense en particulier à ce moment où il s'apprête à ressusciter Lazare et où il rend grâce à Dieu de l'avoir exaucé. C'est un moment très intense qui commence par un regard qu'il porte sur Marthe, sur la douleur de Marthe et Marie, sœurs du défunt. S'ensuit ensuite une profonde compassion, non seulement pour toutes ces personnes qui sont dans le deuil, mais je pense aussi, c'est mon interprétation, sur l'humanité, sur toute l'humanité et sa souffrance. Et une émotion telle qu'elle arrache aux observateurs cette parole « Voyez comme il l'aimait ». Et ensuite, Jésus tourne les regards vers son Père et il est là, prêt à agir dans la volonté de celui qui l'a envoyé. Nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Si lui éprouvait le besoin de tourner le regard vers son Père, à combien plus forte raison avons-nous besoin d'élever notre regard vers le ciel? Car notre angle de vue humaine, d'où qu'il soit, ne nous permet pas d'embrasser les choses avec le meilleur regard, et encore moins les choses spirituelles. Nous avons besoin du regard de Dieu sur nos vies et sur nos choix. Nous avons besoin de l'éclairage de Dieu pour nos vies et pour nos choix. Dans sa prédication du 6 mars, Fabrice a évoqué l'intention de Dieu. Et en particulier, de saisir l'intention de Dieu pour les hommes, que tous soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés, ça c'est l'intention de Dieu. Or, nous avons besoin de regarder à Dieu pour saisir son intention. Nous avons besoin du regard de Dieu sur les hommes pour nous approprier cette intention de Dieu qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons besoin de voir les hommes avec le regard de Dieu. Et nous voyons chez Jésus quelle est la nature de ce regard, nous en avons parlé. Nous avons besoin de voir les hommes comme Dieu les voit, afin qu'à notre tour, nous en fassions des disciples, comme d'autres ont posé sur nous le regard de Dieu, le regard que Dieu avait de faire de nous des disciples. Lorsque nous parlons de vision, de regard, lorsque nous construisons des projets d'avenir, ça ne peut pas être notre seule vision, notre vision personnelle. Ça ne peut pas être notre seul regard. Ça ne peut pas être notre seul projet. Ça ne peut s'inscrire que dans cette grande vision de Dieu pour tous les hommes, qu'ils soient sauvés. Ça ne peut être que la déclinaison locale de ce grand projet qui consiste de génération en génération et jusqu'au retour de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Je voudrais vous lire ce que dit Jésus dans Jean chapitre 6, les versets 37 à 40. Jean 6, 37, 40. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Cet après-midi, nous avons notre assemblée générale avec une décision à prendre, une décision susceptible d'engager des changements énormes et durables pour notre communauté. Il est fort probable que nous ne portions pas tous le même regard sur ce projet. Il est même fort probable qu'en grattant un peu, nous ne trouvions pas parmi nous deux personnes qui portent exactement le même regard sur ce projet. Nous pourrions même nous diviser sur notre façon de voir les choses. Mais l'Église possède quelque chose que ne possède pas une association lambda. Elle a le privilège immense de pouvoir élever son regard vers Jésus, tête de l'Église. En lui, nous avons la volonté, nous avons la possibilité de nous unir dans un regard commun vers le Père pour discerner sa volonté, comme lui a levé les yeux vers le Père. Ta volonté et non la mienne, a-t-il dit. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Amen.